Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Merci beaucoup de votre présence pour cette rencontre du cycle « Écrire, écrire, pourquoi ?» qui vous est proposée par la Bibliothèque publique d'information. Merci surtout à Richard Millet d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Et il me semble qu'il n'est pas si courant pour le public d'avoir l'occasion d'entendre Richard Millet parler de ses livres, du cheminement intérieur qui le conduit à l'écriture, des relations qu'il entretient avec la littérature. Je vais donc, sans plus tarder, le laisser en compagnie de Laurence Plasnet, qui va nous présenter son œuvre et avec laquelle il va s'entretenir. Laurence Plasnet, qui est elle-même écrivain, mais qui est aussi universitaire et enseigne la littérature française à la Sorbonne. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Excusez-moi, juste une petite précision. Pour la première fois aujourd'hui, la séance et l'entretien donc est rediffusé en direct sur le site internet de la BPI. Et les internautes peuvent participer au débat en envoyant des questions ou des remarques via le réseau qui s'appelle Twitter. Voilà. Donc on ne peut pas malheureusement se connecter dans la salle pour l'instant. Madame Plasnet posera donc certaines questions qui seront directement posées par les internautes. Voilà. Merci. Bonne soirée.
Si je ne m'électrocute pas avec l'ordinateur. Richard Millet, vous êtes probablement l'écrivain le plus emblématique qu'on puisse convier à un cycle de rencontres intitulé « Écrire, écrire, pourquoi ?». Non seulement parce que vous êtes l'auteur d'une œuvre magistrale, variée, vous avez commis des romans, des récits, des pièces de théâtre, des essais sur la littérature et la musique, des livrets d'œuvres musicales, à commencer par celui du premier opéra de Marc-André d'Albavy, Gesualdo, qui a été créé à Zurich le mois dernier. Une œuvre ample, donc, et commentée en France et à l'étranger, qui dialogue avec Proust, Faulkner, Balzac, Bossuet ou Céline, si ce n'est Couperin, Sibelius, Bruckner. Mais aussi parce que vous êtes un graphomane patenté, avec presque 60 titres en 27 ans, une frénésie qui va croissant avec l'âge, du reste, à en juger par les quatre ouvrages parus pour la seule année 2010, Le sommeil sur les cendres et Brume de Cimérie en janvier, Tarnac et l'enfer du roman cet automne. Écrire, écrire, voilà bien une fureur dont vous pouvez témoigner. Vous n'êtes pas un buveur de café comme Balzac, on ne vous connaît pas de robe de chambre, je vous crois vous savoir plus porter sur la vieille prune et les vieux gilets troués. Vous êtes un peu moins pensu, mais vous présentez avec ce dernier des affinités certaines. Votre œuvre orchestre comme la sienne une vaste comédie humaine où le retour de lieux, de motifs et de personnages clés permet autant d'effets de sens que d'effets proprement musicaux par la délimitation de mouvements, un jeu incessant de variations et de tempi qui entretiennent chez le lecteur, à chaque coda particulière, la crainte d'un final en réalité sans cesse repoussé et que l'extension régulière du territoire de la fiction rend peut-être de plus en plus improbable, sinon impossible. Il s'agit d'un travail délibéré de la matière romanesque. L'observateur scrupuleux voit que vous introduisez dans les rééditions actuelles en collection de poche de vos premiers textes des allusions, des noms qui ne s'y trouvaient pas originellement et qui resserrent le lien entre eux et le vaste cycle corésien inauguré avec la gloire des prêtres en 1995. Ces échos, reprises, retours composent un univers et une partition où vous jouez de reflets et de mise en abîme permanent. Vous paraissez donc, à 57 ans, être un fait, et pourtant, disons-le, le sentiment du fait aujourd'hui semble fortement supplanté pour une très vaste partie de vos lecteurs par celui de la culbute tragique. Depuis Le dernier écrivain et harcèlement littéraire en 2005, vous avez multiplié les textes sur la littérature contemporaine. Je citerai Désenchantement de la littérature en 2007, L'opprobre en 2008, L'enfer du roman il y a un mois. Où vous dénoncez le déclin de la production actuelle, l'américanisation du roman, sa féminisation, les ravages de la démocratie et du métissage sur la langue, l'esprit, la création. Où vous posez que la fin de l'Empire colonial français, avec son idéologie et sa mythologie, marquerait approximativement le terme de toute littérature dont vous seriez au fond, pour vos contempteurs, vous, seul et solitaire, le dernier héros. Le Balzac de notre contemporanéité, l'oracle violent et sensuel, empathique des hauts plateaux limousins, l'esthète subtil de musique secrète, se serait transformé, gémit-on, en vieille sibylle des banlieues, dit Didier Jacob dans son blog, vous a appelé le moine du mont Pathos, en usager mécontent du RER à peu près comme tous les autres. Vous montrez l'abîme sous nos pieds, vous fustigez notre ectoplasmie. Beaucoup ne voient en fait que l'orgueil et l'amertume d'un grand écrivain, sans public à sa mesure, d'un homme à qui la notion d'histoire échappe, qui aura échoué finalement à saisir le sens de notre monde et n'aura été que le chantre trouble d'un passé idéalisé. On vous lit un peu moins, on se détourne quelquefois. La somme des travaux qui vous sont consacrés est inférieure à celle de vos parèdres, Pierre Michon, Pierre Berbougnou ou Pascal Quignard. Un tel sabotage, ou une telle méprise de lecture, peut-être, nous poserons la question, ne peuvent laisser indifférents. Ils renvoient, je crois, à une conception de l'écriture, à des attentes à son égard. Vous avez dit souvent qu'elle dévorait la vie en vous, que vous lui immoliez l'homme millier. Que je serais heureuse que nous puissions éclaircir ce soir pour comprendre, pour vous retrouver. Nous entretenir un lundi, le jour où, dans l'amour des trois sœurs Pial, le protagoniste et sa vieille maîtresse, c'est-à-dire son ancienne institutrice, non son amante perdue, comme pourrait le suggérer cette expression équivoque, ce livre, sur le modèle des contes du lundi d'Alphonse Daudet ou des causeries du lundi de Sainte-Beuve, a une vraie cérémonie langagière pour découvrir la vérité sur Amélie Pial, la centauresse brisée, nous sera, je l'espère, de bon augure. Alors, pour commencer, très simplement, je voulais vous demander quand, comment, pourquoi avez-vous commencé à écrire ? Dans l'écrivain Syrier, le protagoniste, élève médiocre et discipliné, comme vous prenez plaisir à vous décrire dans Fenêtre au crépuscule, déclare qu'il a commencé à écrire, je cite, « pour perpétuer l'émotion par la lecture ». Pour perpétuer l'émotion par la lecture. Ainsi, les enfants retrouvent-ils par des crises et des bruits multiples, extravagants, les musiques qui les ravissent. L'écriture, dans cette citation, n'est qu'un moyen, pas une fin, et il ne s'y rattache aucune de ces imageries du grand écrivain ou de ces mythologies particulières qu'on peut vous reprocher parfois aujourd'hui. Vous racontez aussi qu'enfant, à Beyrouth, vous vous répétiez les contes que vous aviez lus plus tôt, la main en conque sur l'oreille, une image qui revient à propos du narrateur de Ma vie parmi les ombres, dans lequel on voit un double de l'auteur. Comment s'est produit le basculement de la reproduction d'un bruissement source de plaisir à l'ambition d'une œuvre ? Pourquoi ? Vous avez dit aussi que vous aviez fait lire vos premiers textes à Pascal Quignard, à l'époque où il était chargé de cours à l'université de Vincennes, et vous, étudiant. Que s'est-il passé, où, entre Beyrouth et Vincennes ?
Vaste question.
Allez, c'est que la première, courage.
Il faut remonter très loin, mais c'est une espèce d'archéologie qui sera forcément lacunaire. Vous avez dit que effectivement il y avait cette oralisation solipsiste, autistique des contes. Effectivement, je me souviens que j'attendais le break Ford rouge qui me ramènerait chez moi à Beyrouth. Et en attendant ce break, comme j'habitais un peu plus loin que les autres, je me récitais, je verbalisais, si vous voulez, avec la main comme ça, comme les chanteurs corses ou sardes, vous voyez, ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu, et c'était un plaisir extraordinaire. C'était une espèce d'oralité uniquement destinée à moi-même, qui était à la fois à haute voix et muette, c'est-à-dire presque une définition de l'écriture, une espèce de paradoxe, vous voyez, à haute voix et muette en même temps. Donc, ensuite, j'essayais de reproduire, parce qu'il y a dans toute écriture, non pas un fantasme immédiat d'originalité, mais surtout une espèce de mimésis perpétuel. On cherche à reproduire ce qui nous a plu, ce qui nous a hanté. J'essayais de réécrire sur une machine à écrire dans un bureau paternel, des choses comme le Club des Cinq, vous voyez, des débuts de récits. J'étais le roi de l'incipit. Ça n'allait pas d'ailleurs beaucoup plus loin que l'incipit. Mais l'incipit est très important. On peut faire toute une œuvre en incipit. Et ensuite, il y a eu la guerre des six jours, qui a été une chose magnifique pour nous, lycéens, je veux dire, parce que, collégiens plutôt, parce que ça a été une semaine de vacances. Le Liban, vous le savez, n'a pas été atteint par la guerre des six jours, n'a pas été touché par la guerre des six jours, enfin très peu, par les jets israéliens qui passaient à 20 mètres au-dessus, mais si vous voulez, c'était une semaine de vacances qui m'a permis de comprendre que là, j'étais en train de vivre des choses qui étaient plus intéressantes que beaucoup de choses que je pouvais, dont je pouvais entendre parler en France. Les histoires sociales, enfin, des choses insupportables. Vous voyez ? Donc, ce qui fait que quand je suis rentré en France, après la guerre des six jours, définitivement, la guerre m'est apparue comme quelque chose qui allait me solliciter beaucoup. Je veux dire que j'étais entré dans l'histoire avec un grand H, en même temps que je savais que j'allais un jour, je m'affronterais un jour à ça. Après, il y a eu d'autres choses sur la guerre, mais je crois que vous voulez qu'on en parle plus tard, le plus tard possible. Parce que vous avez peur qu'on parle de la guerre, je le sens.
Moi, vous me faites pas peur.
Bon, donc voilà, si vous voulez, j'ai senti que la guerre avait fixé un certain nombre de choses. Si vous voulez, c'est un peu comme si je passais des récits de guerre de l'enfance, que j'entendais enfant aussi bien dans la bouche des vieillards qui me racontaient la guerre de 14 dans ma Corrèze natale, que les films de guerre que je voyais avec un plaisir que je n'ai jamais abandonné. Et les jeux, on jouait à la guerre à Beyrouth, vous voyez, avec mes amis, des garçons d'autrefois, ils jouaient à la guerre. Aujourd'hui, ils ne jouent plus à la guerre, c'est politiquement incorrect. Donc, on jouait à la guerre, et puis d'un seul coup, la guerre était là, qui nous a fait accéder à la réalité, à un réel. Maintenant, quittant Beyrouth et rentrant dans la France grisâtre et ennuyeuse de 1967, j'étais, comment dirais-je, vous savez, un peu comme dans ces films de science-fiction où un type sort d'une capsule et d'un seul coup s'en va très loin dans l'espace. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc j'ai senti qu'une distance, j'étais entré dans le temps. Et le temps et l'écriture, vous savez, ont des rapports extraordinairement étroits, complexes, etc., ambigus. Mais voilà, l'écriture est un art du temps. Donc le récit, en tout cas, le roman est un art du temps. J'étais entré dans le temps, j'étais entré dans la nostalgie, dans la séparation avec ce pays d'enfance qui était le Liban pour moi. Et j'ai commencé à recopier, toujours, c'est pas du Pierre Ménard, auteur du Quichotte, mais c'était presque ça, je recopiais le guide bleu. Vous voyez ? Je savais que j'avais à faire mon apprentissage et je recopiais le guide bleu, du Liban bien sûr. Et je pensais que c'était non pas une œuvre, mais que je voilà que ça m'apprenait à écrire. Effectivement, c'était des espèces de starting blocks dans lesquels je voilà. Après, j'ai rencontré Borges et ça m'a beaucoup éclairé sur la vérité de ma démarche.
Parce que dans vos livres, tous les enfants, tous les adolescents éprouvent un plaisir de la lecture qui est tout à fait particulier, d'une extrême violence. Et dont l'écriture ne semble au fond qu'une forme de reproduction et de compensation. C'était aussi un peu ce que... L'écriture était un moyen pour inscrire dans la durée ce plaisir de lecture. Mais au départ, vous n'aviez pas le sentiment de l'œuvre à accomplir, du monument qui vous attendait. Il n'y avait pas de Chateaubriand ou rien.
Non, pas du tout. Non, c'est venu beaucoup plus tard.
Oui,
non, c'est pas venu du tout d'ailleurs, mais c'était autre chose. Il a fallu que je découvre... la poésie de Rimbaud, et puis là, effectivement, j'ai compris que voilà, c'était tout à fait autre chose. Je me suis dit, il faut être Rimbaud, donc c'est tout. Enfin, tout ceci est d'une banalité affligeante, et je suis vraiment désolé qu'on s'y attarde, parce que ça n'a pas grand intérêt.
À ceci près que tous les lecteurs de vos romans savent à quel point l'oralité est présente dans l'écriture elle-même, et en particulier dans les premiers textes qui sont très souvent... raconter ce qui est écrit est en réalité raconté à un personnage, adressé à un personnage. Et au fond, me semble-t-il, c'est un peu avec la confession négative que le dispositif change et que le récit n'est pas immédiatement dédié à un auditeur. Donc on a une évolution au très long cours en réalité, à cet égard.
En réalité, mes premiers récits, mes premiers romans sont souvent des récits à la première personne, donc ils ne sont pas racontés à quelqu'un. Donc,
Mais je pensais, par exemple, au grand roman corrézien, L'amour des trois sœurs Pial.
Ah oui, mais ça, c'est beaucoup plus tard. J'étais déjà vieux. Donc, vous voyez, j'avais quand même 15 livres derrière moi. Je veux dire, c'est pas mon premier. Non, j'ai compris à partir des années 90 que c'est toujours la même chose. À force de voir mourir, et là, qu'est-ce que je voyais ? Je voyais mourir le territoire sur lequel j'étais né, c'est-à-dire le village dans lequel je suis né en Corrèze. Les gens mouraient, donc je comprenais non pas qu'ils mouraient pour être remplacés, mais qu'ils ne seraient pas remplacés. Et n'étant pas remplacé, je me trouvais face à ce qui est maintenant dans ce village, face au vide, quoi. Le vide absolu, il n'y a plus personne. village mort. Donc vous êtes face à la mort. Et donc, d'un seul coup, ce sont les voix intérieures, comme dirait Victor, qui ressurgissent, vous voyez. C'est-à-dire que, mais comme elles ne peuvent pas ressurgir dans leur matérialité, même leur matérialité absente, si vous me pardonnez ce toxymore, j'avais besoin de les déployer. Donc effectivement, j'ai trouvé des dispositifs qui permettaient de, voilà, de faire parler un certain nombre de personnages, tout simplement. Mais tout ceci déjà avait été fait par le William et quelques autres, vous voyez. Alors, vous n'avez pas l'air convaincu du tout par ce que je dis.
Mais... Je crois que vous pourriez nous en dire plus.
J'arrête pas de parler.
Une deuxième source, me semble-t-il, est importante, c'est la musique. La musique tient, nous le savons tous, une part capitale dans votre œuvre, de plusieurs manières. Vous lui avez consacré des textes. Tout à l'heure, j'ai évoqué les essais « Musique secrète » et « Pour la musique contemporaine ». Vous lui avez consacré aussi certains essais du sentiment de la langue. Par exemple, un texte sur Couperin et les leçons de ténèbres, ce qui était plus paradoxal pour évoquer la question de la langue écrite. L'Angélus, un de vos tout premiers textes, raconte l'histoire d'un compositeur installé à Lavial, en Corrèze. Et Philippe Feuilly, le protagoniste de La Voix d'Alto, est un instrumentiste, un altiste. Nous savons que vous avez collaboré avec des musiciens, avec Edith Catacisi, avec Marc-André Dalbavi, nous venons de l'évoquer. Vous avez d'ailleurs hautement déclaré à plusieurs reprises, de façon très ostentatoire, votre mépris pour les auteurs qui n'ont pas l'oreille musicale, qui n'ont pas le sens ni le goût de la musique, liant chez eux cette absence de goût à un défaut de style, associant du même coup, en ce qui vous concerne, musique et lyrisme de manière très étroite. On sait que vous écrivez en écoutant de la musique. Vous l'avez rappelé récemment à une émission de François Noumelman sur France Culture. Et vous avez avoué que votre premier désir avait été d'être compositeur plutôt qu'écrivain, je crois. Et vous subordonnez souvent l'écriture à la musique, voyant en elle un art plus riche, plus intime aussi, et délié du référentiel. Je me demandais si, de nouveau, on n'avait pas là la trace que l'écriture, au fond, semblait pour vous un pis-aller à l'origine, une forme de compensation, instaurant peut-être un rapport nécessairement malheureux d'emblée à cette dernière, ou du moins vécu sur le mode de l'insatisfaction, une forme de frustration. Comment articulez-vous les deux arts ?
C'est très difficile parce que ils sont en concurrence, ce sont deux arts du temps. Donc ils sont en concurrence forcément. Donc comment les concilier ? Comment les concilier sans trop de dégâts ou de déchirures ? Donc il faut accepter au fond qu'il s'instaure en moi. J'ai dû accepter le deuil d'un compositeur, que je n'ai pas pu être, ou d'un musicien, d'un interprète que je n'ai pas été non plus. Et à partir de ce moment-là, les choses sont un peu plus claires. Mais dans ce deuil, il reste toujours le fantasme ou le fantôme de ce compositeur qu'on n'a pas été. Et beaucoup de choses se réorganisent. Du coup, je m'attache à la composition de mes livres comme à des formes musicales. Je veux dire par là que parfois, je donne un exemple plus précis. Un livre comme Ma vie parmi les ombres est divisé en trois parties et j'ai voulu que ça soit une sorte d'équivalent littéraire d'une symphonie de Bruckner en trois mouvements énormes, très lents. Vous voyez, donc voilà, c'est purement fantasmatique de ma part. Ça n'apporte rien au lecteur, je veux dire qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, vous voyez, ce n'est rien. Mais dans la démarche d'écriture, il y a une espèce de quête, dans la mienne en tout cas, il y a une quête de musicien que je n'ai pas été. Vous voyez ? Mm-hmm. Compositeur plutôt que je n'ai pas été, même s'il m'est arrivé de commettre une pièce pour piano que je n'ai même pas pu jouer tellement elle était difficile. Donc, voilà, donc... Mais les formes musicales et les formes littéraires sont bien sûr, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Reste l'opéra, effectivement, qui serait peut-être un mixte ou un lieu de transaction possible. Effectivement, il y a des choses qui sont possibles. À ceci près que vous savez que dans l'opéra, on entend rarement bien, sauf peut-être dans Péléas et Mélisande, on entend rarement bien ce qui est chanté. Malheureusement, c'est toujours très compliqué de chanter fort, vite, etc., etc. Surtout le français, qui est une langue difficile à chanter. Et donc le texte devient une espèce d'élément de la musique et perd presque sa signification. Vous voyez, la partie signifiante du texte bascule au profit de sa musicalité. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc là, on rejoint effectivement encore la défaite du verbe devant la musique. En plus, le verbe est compromis beaucoup plus que la musique. Je sais bien que Quignard a écrit des choses contre la musique, la haine de la musique, si vous voulez, par l'utilisation qui est faite souvent de la musique par les régimes totalitaires, et pas seulement ceux auxquels on pense. Je veux dire, la musique qu'on entend chez Auchan et Carrefour, etc., est aussi une musique totalitaire dans les aéroports. C'est une musique totalitaire dans la mesure où on n'en a pas envie, mais on nous l'impose. Donc, vous voyez, cette fonction de la musique, cette fonction industrialo-totalitaire de la musique, est quelque chose de tout à fait inquiétant. Mais les mots sont aussi compromis avec le langage courant, avec les idéologies, donc il s'agit de s'écarter le plus loin possible, le plus possible de ce langage courant, de son usage idéologisant. Et c'est pourquoi, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, suis particulièrement sensible à la musicalité de l'écriture, comme on dit aujourd'hui, mais à quoi je préfère le mot de style. Et donc, dans la généalogie de mon style, si je puis m'exprimer de façon aussi prétentieuse, j'ai toujours tenu compte de cette dimension musicale, c'est-à-dire que, écrivant en écoutant ou en entendant de la musique, parce que ce rapport est un peu particulier, j'ai la prétention de croire qu'il passe quelque chose de ce que j'écoute dans ce que j'écris. Alors, comment, dans quelle mesure, je n'en sais rien, c'est extrêmement compliqué à établir, mais j'avais donné plusieurs fois l'exemple dans mes premiers récits, à l'époque où il y avait la machine à écrire, qui est un instrument percussif, au contraire de l'ordinateur, qui est un instrument autre, disons. La dimension percussive de la machine à écrire, lorsque vous écoutez du Bartok, vous voyez, qui est surtout les musiques pour piano de Bartok, qui est un artiste percussif lui aussi, il ne peut pas ne pas en passer quelque chose dans l'écriture. Et à l'époque, j'écrivais avec des phrases brèves, et tout le monde était plus ou moins content. Et donc, voilà, après, l'ordinateur, la dimension symphonique des choses, ça a beaucoup changé, la phrase a changé, etc. Je vous ai répondu ?
Oui, oui, oui. Ce qui me frappe beaucoup, c'est, contrairement au discours de nombreux écrivains pour qui l'écriture est un éblouissement presque immédiat, c'est que vous nous expliquez venir à l'écriture par la déception ou l'impuissance à avoir pratiqué, par exemple, la musique d'abord. Il y a une espèce de rapport déceptif. Et dans cette conscience peut-être malheureuse, originelle de l'écriture, je me demandais aussi s'il fallait rapprocher, s'agissant de la musique, le fait que c'était un art que vous avez inculqué à votre père de manière très sévère, je crois, celui-ci empruntant pour l'art de la brimade à certains des personnages de père assez farouches que vous inscrivez dans votre œuvre. Et je me demandais si ce n'était pas une part de maudissure originelle, puisque le terme revient souvent dans les romans, que cette initiation par le père à ce qui apparaissait allait être la forme du plaisir suprême, créant un rapport trouble entre haine et passion pour cette servitude à l'art que vous alliez, auquel vous alliez consacrer votre vie. Est-ce que ce n'était pas la source, sans faire de la psychanalyse de bas étage, à la fois d'une exigence emphatique à l'égard du style et d'une haine de soi permanente en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, peut-être même l'origine de la représentation de l'écrivain en personnage haïssable que vous aimez tant mettre dans vos livres. Dès le début, l'écrivain syrien est un type assez odieux, disons-le. D'ailleurs, il l'assume. Hein. Et à la fin du récit, il avoue avoir peut-être commis un meurtre à Fontenay-sous-Bois, où vous avez résidé jeune. Or, on sait que le voluptueux et tendre Pascal Bugeaud de Ma vie parmi les ombres devient dans la confession négative un tueur hagard parmi les phalangistes et Katayev.
Je vous arrête. C'est pas du tout un tueur. Ça, c'est les ennemis qui disent que c'est un tueur.
Un combattant,
c'est tout.
Voilà. Alors, lui aussi, un combattant. Mais lui aussi tue. Et il arrive qu'on vous entende confesser.
À la guerre, il me semble quand même qu'on tue.
Oui. Mais bref, l'écrivain tue. Et vous confessez éventuellement des envies de meurtre que vous vous empressez de déclarer symboliques. Est-ce que cet écrivain si déplaisant que vous avez plaisir à nous représenter ne viendrait pas d'une espèce de malheur originel, de rapport.
Pas du tout, non. Non,
non,
non, non, pas, absolument pas.
Absolument pas. Non, c'est non. Vraiment le mal pur et bien vécu.
Le mal existe, enfin, je veux dire, aujourd'hui on le psychologise, moi je crois profondément, je suis comme Bernanos, je crois au démon, je crois absolument. Et le démon n'est pas avec des cornes, des choses comme ça. Le démon, ça peut être vous, madame, par exemple, mais n'importe qui, ou vous.
Oui, ça c'est sûr, mais...
Non, mais je veux dire par là que si je suis énervé par beaucoup de choses aujourd'hui, et Dieu sait si je le suis... j'ai des raisons de l'être. Je veux dire, ce sont des raisons qui appartiennent, qui ont des causes contemporaines. C'est pas du tout quelque chose d'archaïque ou qu'il faut chercher
mais,
dans
mais,
mes.
Mais vous n'aviez peut-être pas les mêmes raisons d'être énervé à l'époque de l'écrivain Sirié. Et tous vos écrivains sont quand même particulièrement démoniaques.
Non, ils sont déplaisants. C'est tout à fait différent.
Haïssables, disent-ils.
Oui, ils en ajoutent un peu. Je veux dire par là que. J'ai, vis-à-vis du fait de me dire écrivain, beaucoup de problèmes encore aujourd'hui. Avec 50 livres derrière moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que on ne sait jamais si on est dans l'authenticité ou dans l'imposture. Je veux dire. Et plus on écrit, plus on acquiert de la virtuosité, et toutes sortes de virtuosités d'ailleurs, et on ne sait plus très bien au fond où on en est. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc vous pensez que ça n'a absolument aucun rapport avec la question que je vous ai posée ?
J'ai pas envie de répondre. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Elle est trop intime. Elle est beaucoup trop intime.
Parce que de même, il est tout à fait étonnant. Vous avez parlé du piano. On sait que vous avez été initié au piano. Vous dites avoir écrit une unique pièce qui était une pièce pour piano. Or, dans votre œuvre, quand on compose pour cordes. Philippe Feuilly est un altiste. Dans Le compositeur de l'Angélus écrit une pièce, 7 pièces pour cordes, comme vous allez écrire les 7 passions singulières. Il y a une volonté de déplacement, de négation qui est quand même troublante pour le commentateur.
Écoutez, un écrivain qui serait content de soi et qui penserait qu'il maîtrise tout serait, là pour le coup, vraiment un guignol. Donc je suis peut-être extrêmement déplaisant et même détestable, mais je ne pense pas être un guignol. Or, je vous répète que le doute, le sentiment d'imposture, ce qu'il faut dépasser à chaque fois que j'écris un livre et que je le publie pour arriver à me dire que je suis un écrivain, est quelque chose qui ne cessera jamais.
Donc il y a bien une faille, à tout le moins, on est d'accord sur le fait qu'il y a une faille par rapport à la conscience de l'écrivain.
Bien
qui
sûr,
peut être bien plus heureuse chez d'autres, par exemple chez Michon. Ou au contraire, il y a une espèce d'épiphanie et de libération.
Je sais pas ce
puisque
que
la question est pour écrire, pourquoi au départ il semble plutôt y avoir une faille ou une situation blessante au début de votre œuvre. En tout cas, pas le personnage vaniteux, enflé et satisfait que beaucoup aiment décrire.
En parlant de moi ?
Bah oui.
Enflé, vaniteux et satisfait, non, j'avais jamais encore entendu ça. J'ai entendu
vous
fasciste.
Connaissez mon art du résumé.
Non, j'ai entendu fasciste, nazi, des choses de ce genre, beaucoup. Mais celle-là, non. Bon, c'est bien ça. Voilà. Une espèce de consensus négatif. Non, mais bien entendu qu'il y a une faille, mais j'ai pas envie de. C'est extrêmement personnel. Je crois que. Mieux vaut laisser deviner les failles. Je veux dire, on n'est pas obligé d'aller se pencher sur les gouffres. On n'est pas obligé de faire de la voltige au-dessus de l'abîme pour savoir qu'il y en a un. J'ai toujours dit que tant que mon père était en vie, je ne pourrais pas accéder, descendre dans le réacteur nucléaire de Tchernobyl. Donc voilà, donc, il est encore en vie. Et je ne vais pas dire non plus que j'attends impatiemment qu'il meure pour y descendre. Mais je sais que bon, voilà, tant que je n'ai pas descendu dans ces abîmes-là, en écrivant, je veux dire. Je suis descendu dans bien d'autres abîmes autrement, mais voilà, je ne peux pas parler de ces failles et de l'origine de ces failles. En réalité, ce dont je peux vous parler, c'est effectivement des deuils. Mais je l'ai dit tout à l'heure à propos de la musique. Je peux dire au fond que chaque livre que j'écris porte le deuil du livre que j'aurais voulu écrire. Mais c'est d'une banalité extrêmement affligeante. Mais bon, Oui, c'est très très compliqué de vous répondre simplement.
Mais vous pouvez répondre de façon compliquée aussi.
Sans avoir l'air de se dérober.
Bon, alors nous allons essayer d'envisager des sujets qui vous inspireront peut-être davantage. Par exemple, l'amour, la sexualité. Vos livres sont peuplés d'écrivains haïssables et de jolies femmes. Elles y sont plus nombreuses que les houris du paradis, il faut bien le dire. Vous croisez assez peu de femmes laides.
Ah, pourtant.
En tout cas, vous ne la regardez pas longtemps. Vous dites des femmes qu'elles sont votre seul apaisement, que vous ne vivez que dans la compagnie de quelques-unes d'entre elles.
Les personnages disent ça.
Non. Ça, c'est vous dans les essais. Dans l'opprobre, vous le répétez à chaque fois, dans l'enfer du roman. Et la sensualité est très vive dans vos ouvrages. Saint, toison pubienne, que vos personnages taillent à la mesure adéquate, et celles, odeurs, reins, visages, chevelures et vulves, y composent presque un bestiaire à force d'individuation passionnée. L'amour mendiant a pu provoquer l'indignation quand ce n'était pas une simple incompréhension polie. Mais grand mystère, aucun de vos livres ne raconte une vraie histoire d'amour. C'est peut-être L'Orient désert qui suggère le plus ce récit absent, en évoquant une liaison de toutefois terminée au moment du récit et qui se résorbe en questionnement solitaire, pour ne pas dire en plaisir solitaire. La liaison entre Claude Mirgue, dans L'amour des trois cieux piales, et de la nervalienne Sylvie, est circonscrite au temps de la narration des contes que lui tient sa vieille maîtresse. Alors là, cette fois-ci, on a une allusion évidente à Barbey d'Aurevilly, je pense. Comme dans Ma vie parmi les ombres, à nouveau, celle de Pascal et Marina, à l'histoire que Pascal narre à la jeune fille, nuit après nuit. Et Sylvie, dans L'amour des trois seuls piales, a une très belle formule. Elle dit que l'amour est comme une nage vers une rive qu'on n'atteindra jamais. L'homme retient par le récit sa chute dans la nuit du jour, ce jour trop bleu, détesté, son expulsion des chambres qui marque tant votre œuvre, jusqu'à une date très récente, Cinq chambres au Liban. Voilà, c'est le cinquième livre de l'année que j'avais oublié. Cinq chambres au Liban, pardon. Donc l'homme retient sa chute, comme chez Scheherazade, son exécution par ce récit. La femme est à la fois la source du récit et sa destinataire. Et l'on finit par se demander si en réalité il n'y a pas dans cet univers très solipsiste d'amour que du récit, d'érotique et de plénitude que de la parole, dans un rapport au bout du compte d'exclusion mutuelle entre la femme et le roman. Pascal, dans Ma vie parmi les ombres, prononce ces mots, je vous cite, « S'aimer n'est peut-être rien d'autre qu'échanger le récit de deux existences, détruire par les mots ce que l'autre a d'irréductible et faire en sorte que le corps puisse s'allonger et s'oublier sur ce lit de mots, avec un jeu de mots pour le coup évident entre lit de mots et lit de mort. » Vous-même semblez confirmer les affirmations de votre narrateur dans un article de 1997 qui était paru dans Le Figaro. Pardon, je vais vous donner la permission de vous lire. Oui. Vous écrivez « S'il y a un donjuanisme de l'écrivain, il est surtout à l'œuvre dans ce qu'il lui reste des femmes après l'amour. Quand l'écriture a suscité des visages et aboli les corps, comme si écrire et vivre ne pouvaient aller ensemble et qu'il fallut sacrifier le vivant. Des noms, des livres de noms, des récits écrits à partir de noms et d'autres pour ces noms, en hommage ou en quête de leur profération nouvelle. J'écris, ces noms convoquent ces figures, m'attachent à leur rendre une épaisseur corporelle et à ces corps la lumière où les aimer encore. C'est dire si l'écrivain est couvert de femmes. Écrire, c'est bien sûr travailler à séduire, à rappeler au plus près de soi toute femme enfuie, abandonnée ou à venir. C'est l'invention de cette femme innombrable pour qui, peu ou prou, on écrit, sororale lectrice, adolescente moqueuse, femme qui se damne, figures absentes ou trop rêvées. Alors, très simplement, n'est-il pas d'amour, en fait, que du récit, donc d'érotique que de la parole? Ce monde n'est-il pas un monde très désespéré, clos, replié sur lui à l'image de ces linges dans lesquels vous dites que les femmes entourent l'enfant comme les morts et auxquels vous comparez souvent la parole en train de se déployer?
C'est pire que ce qu'elle m'a posé comme question avant.
Et ça ne va pas s'arranger.
Comment je vais me tirer de... Je crois qu'effectivement, je suis quelqu'un qui a une dimension autistique assez prononcée. Ces récits que je me ressassais comme ça, on sent la preuve, n'est-ce pas ? Mais je crois que l'écriture suppose une solitude du même ordre. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait solipsiste. Je pense qu'effectivement, la vie d'un écrivain est incompatible avec une vie de famille, une vie conjugale. Je le pense que c'est profondément incompatible. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Beaucoup de femmes se brûlent les ailes avec des écrivains. Mais bon, ce n'est pas une condamnation de l'amour en tant que tel, mais l'amour est quelque chose qui était extrêmement éphémère, et le désir encore plus. Et ce qui, vous savez, je ne sais plus qui se disait ça, Nietzsche ou un moraliste français du XVIIIe siècle, c'est-à-dire presque la même chose, ce qui est important dans la conjugalité, ce n'est pas les premiers temps, c'est la capacité que vous aurez à avoir des conversations avec votre conjoint une fois que les illusions du désir et de l'amour seront passées. Effectivement, des couples peuvent durer éternellement à condition qu'ils aient le goût de la conversation, qu'ils entretiennent cette conversation. Maintenant, conversation, récit, on est à peu près dans la même chose. Un couple qui a réussi, au fond, c'est un roman. C'est pas beau comme formule, ça.
Signé par combien de personnes ?
La formule ?
Non, le roman.
Ah, le roman. D'innombrables personnes et très peu en même temps. Je veux dire, je crois que... Il paraît qu'il y avait un salon du divorce ce week-end. C'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, on est dans le nihilisme le plus total. Là. C'est fabuleux, l'Occident. Je crois jamais un salon du divorce. Je veux dire, le désastre, la misère morale, sexuelle, enfin, d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi et bien avant moi. Enfin, comment voulez-vous espérer quoi que ce soit ? Il y a des rencontres, bien sûr, il y a des histoires d'amour, il y a tout ce que vous voulez, mais par rapport à quelque chose d'aussi exigeant que l'écriture et un livre, je pense qu'il y a une concurrence très dure, très violente, qui rend effectivement l'amour incompatible avec cette activité. Peut-être, je ne sais pas. Je ne voudrais pas paraître radical et cynique à bon marché, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, effectivement. C'est une activité qui requiert tout le temps. Quelle femme va supporter un type qui se lève en pleine nuit pour noter une phrase ? Enfin, c'est pas possible, quoi. Dans la première chose, les femmes qui ronflent, oui, effectivement.
Non, c'est... des hommes.
Enfin bon, dès que j'attaque une femme, vous voyez, le pouvoir féminin se manifeste et ça. Donc non. Voilà, puisqu'on est censé parler de l'écriture, une généalogie d'écrivain, oui, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses, non pas à côté des femmes, bien au contraire, mais à côté de quelque chose qui serait de l'ordre de la famille, et de quelque chose de construit et de normal.
Mon but n'était pas du tout de me livrer à une incursion dans votre vie intime.
Vous ne faites que ça depuis le début, ma chère, donc...
Mais de toute façon, vous parlez beaucoup de votre vie intime dans vos livres, donc on y revient un peu obligatoirement. Mais plutôt de s'interroger sur une espèce de définition axiomatique, ontologique, qui fait qu'au commencement était le verbe et à la fin aussi. Et entre les deux, on a l'impression que la grande aventure, non pas seulement peut-être pour l'écrivain, mais la grande aventure que votre œuvre envisage, c'est celle de la parole. Même si elle doit être partagée dans le couple. Mais elle balaye toute notion, y compris celle de l'amour profane, désir d'épanouissement personnel. L'écriture est l'espèce de foyer nodal, malheureux, a-t-on vu, à l'origine, en partie, mais absolument central. C'est la question centrale que tous les textes explorent.
L'écriture, la langue, peut-être plutôt que l'écriture.
Oui.
La langue est effectivement la seule chose qui m'aura... guider toute ma vie. Je veux dire, le rapport que j'ai à la langue et aux langues, si vous préférez, voilà, c'est le seul sillon Mais ça, c'est extrêmement compliqué aussi. Je veux dire, c'est puisque je suis né quasiment bilingue, je suis allé après dans un pays où j'étais dans une situation de bilinguisme arabe-français. Je suis né limousin français, enfin pas toi, si vous préférez français. Ensuite, arabe-libanais français, redoublé par d'autres langues comme l'anglais, mais il y avait aussi d'autres langues qu'on entendait comme l'arménien et oui. On pouvait même aller dans des églises entendre du l'araméen ou du syriaque, oui, des choses comme ça. Et très vite, j'ai entendu les langues, je les ai entendues, écoutées en même temps que la musique, si vous voulez. Donc, j'ai compris que ça serait mon affaire très vite. Très, très vite. Même avant d'écrire, même avant d'aller au Liban, à l'âge de 5 ans, je me souviens de. À l'époque où le patois était très mal vu encore, dans les années 50, vous voyez, à l'école de la République, je me souviens d'être allé voir ma maîtresse d'école et
à 5 ans.
De lui avoir exposé un certain nombre de mots en patois limousin, et elle m'a regardé avec un air de mépris qui m'a... Voilà, déjà j'étais dans l'opprobre, vous voyez.
C'est exactement la raison pour laquelle je vous avais parlé des linges, puisque vous jouez souvent sur l'écho entre linge et langue, avec ces images très étonnantes du linge blanc dans lequel les femmes enveloppent le nourrisson ou le mort. Et aussi, il y a une citation, un passage où vous expliquez que la langue est comme un linge qui protège du monde. Et la langue est toujours associée au linge et à la blancheur, alors que je peux donner cette phrase de l'art du bref, où vous dites au contraire, la semence de l'homme dans le ventre des femmes est comme la voie lactée, on ne la voit que la nuit et elle nous montre la nuit. Donc on a vraiment l'impression d'une opposition totale entre un amour qui ne conduirait qu'aux ténèbres, alors que la voie du salut est du côté de la langue. L'exil dans le monde peut trouver un remède par la langue. Vous seriez d'accord pour une fois ?
Non, pense que... Pardonnez-moi. Je pense que je cherche plutôt une langue, comme je l'ai peut-être dit dans un texte, dans laquelle mourir. Au fond, toute ma démarche, parce que nous sommes tous terrifiés par cette fin inéluctable, toute ma démarche, c'est au fond d'écrivain, c'est de trouver, non pas de m'élever un tombeau par mon œuvre, des choses comme ça, mais de trouver une langue que j'aurais créée moi-même dans laquelle mourir. Au fond, mes propres linges, mon propre linceul. C'est très difficile à expliquer parce que je le sens plus que je ne saurais le théoriser, mais il y a quelque chose de ce genre, si vous voulez. C'est très difficile. Tout ce que j'aurais écrit, toute la langue que j'aurais remuée, tout ce que j'aurais essayé d'en faire de cette langue française, n'aura eu pour but que de, effectivement, me donner les linges dans lesquels je m'entourerai pour mourir enfin, sans que ce soit encore un tombeau ni quelque chose de à ma propre gloire, vous voyez. Je crois que la langue permet d'être la seule façon d'apprivoiser plus que la musique, parce que la musique a un côté bizarre pour moi, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais la langue est peut-être ce qui me permet d'apprivoiser un certain nombre de ces terreurs ultimes qui sont liées aux derniers instants. Je pense qu'on peut mourir en récitant certaines prières. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire que vous êtes en train de mourir dans la langue. C'est-à-dire que la langue vous donne cette ultime armature à la fois morale et presque physique, j'allais dire. Le fait de prononcer des mots, d'articuler des mots, même dans ces moments-là. Souvenez-vous que quand on fait l'amour, au moment de la jouissance, la langue vole en éclats, par exemple. Vous voyez, je ne suis pas certain qu'au moment de la mort, sauf s'il s'agit d'une mort violente, ça ne soit pas... Et on peut le lier à ce que Rilke disait de la mort personnelle. Vous savez, cette fameuse prière de Rilke, « Donne-nous une mort qui... Donne-moi une mort qui soit la mienne. » Et on sait que la civilisation contemporaine a complètement... déprivatiser la mort. Elle a privatisé certainement les moyens, les pompes funèbres, des choses comme ça, mais elle n'a pas... Vous voyez, elle a annihilé la mort. Je ne parle même pas du cadavre, le fait de mourir. Ça devient comme ça à l'hôpital, quoi, en gros. Pardonnez-moi, j'ai l'impression d'être un peu confus, mais je n'ai pas de réponse. Je cherche les réponses en même temps que j'essaie de vous répondre. Mais cette idée de linge ultime me plaît. Et j'aimerais que, au fond, la langue dans laquelle j'écris soit une espèce de linceul de Turin, une suaire de Turin, vous voyez. Ça serait peut-être ça, une œuvre qu'on exposerait. Oui.
Bien. On va continuer sur cette idée de pureté que la langue essaie de retrouver ou de mettre à jour. L'univers de vos livres est un monde qui est crépusculaire, violent. Vous évoquez la fin du monde rural en France, mais c'est loin d'être une douce idylle. Il s'agit d'un monde dévasté par les haines, les rivalités, le viol, le meurtre. On peut penser à Christine Rallet dans « Le renard dans le nom », à la victime anonyme de l'écrivain Syrié, par exemple, et à bien d'autres. Les habitants de Prindes sont abandonnés de Dieu, dites-vous, reprenant exactement la formule de saint Augustin, qui décrit une humanité déchue après la faute, abandonnée de Dieu, qu'elle a elle-même abandonnée. La souillure physique, et notamment le pourrissement des corps, sous la double espèce du pourrissement, de la décomposition du cadavre, alors je pense au début tout à fait saisissant de la gloire des pitres, ou également à la fin de la confession négative, vous évoquez un cadavre qu'on transporte en voiture et dont il faut prendre garde à ce qu'il ne pue pas trop, en reprenant le même terme que vous avez employé dans la gloire des pitres. Et la deuxième espèce que tous vos lecteurs connaissent, c'est celle de la défécation précipitée, si je puis dire de façon élégante, la colique, la diarrhée. Elle est incarnée notamment par le personnage de l'Auve au début du roman éponyme, et c'est une image obsédante. Or, très étonnamment, cette image de la souillure et des fesses revient pour symboliser l'écriture. Vous écrivez à un endroit dont je n'ai pas retrouvé la source, mes notes étaient un peu confuses. Écrire, se dire, c'est faire sous soi. Je crois que c'est une des accusations dans l'épître, c'est le père qui doit accuser. Écrire, c'est faire sous soi. Dans l'Angélus, le compositeur déclare qu'il faut atteindre le fétide pour composer. Vous parlez de traverser le cloaque, un terme qu'on retrouve dans l'opprobre, très souvent d'ailleurs. Vous avez aussi ce mot terrible, l'écrivain est un gadoir. On peut s'interroger donc sur la liaison que vous opérez entre cette plongée dans les ténèbres du mal et dans ces espèces les plus matérielles et l'écriture. Vous avez loué, par exemple, dans Le sentiment de la langue, jouant d'eau, jeûner, bataille, pour avoir dit purement le mal, je vous cite. Alors, comment...
Sur la question des excréments, oui, on s'effarouche aujourd'hui, encore une fois, de ces choses-là. Mais si vous regardez, il y a je ne sais combien de gravures de Rembrandt montrant des femmes qui pissent, des fèques, etc. Et tant d'autres, n'est-ce pas ? Donc, je suis né dans un monde où ces choses-là étaient quotidiennes. Tout le monde avait des toilettes, mais personne n'allait dans les toilettes. On pissait dehors, on allait se soulager dehors, enfin, dans les champs, n'importe où. Les cadavres, c'était à peu près pareil, je veux dire, ils étaient gardés très longtemps, enfin tout ceci est extrêmement banal. Et j'ai énormément appris de ce monde, si vous voulez, et quand j'ai vu qu'il était non seulement agonisant mais mort, et que j'ai vu que la société contemporaine était une société absolument aseptisée, les odeurs, etc., je me suis dit qu'il fallait rendre la vérité à ce monde dans tout ce qu'il comportait, compris dans ce qui était insupportable. Les excréments, les cadavres, etc. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, la question du mal, la question effectivement, du démon. Peu d'écrivains, au fond, s'y sont réellement attachés. C'est-à-dire qu'au fond, ou bien vous croyez au surnaturel, comme Bernanos, ou bien vous croyez au sexuel, au pathologique, au déviant. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait autre chose. Donc le surnaturel est évacué. Je prétends, moi, me situer à l'intersection des deux. C'est-à-dire que je crois réellement au surnaturel et je crois effectivement qu'il y a des pathologies. Je ne suis pas sûr que Bataille ce soit... Enfin bon,
c'est page 304.
Oui, non, mais je ne suis pas sûr que Bataille ce soit réellement... Il a écrit un livre, La littérature et le mal, mais je ne suis pas sûr qu'il soit confronté à ça c'est plutôt confronté à l'excès, c'est ce qui est tout à fait différent. En revanche, il y a une phrase de Bataille qui dit, qui est très célèbre, qui dit « J'écris pour ne pas devenir fou ». Et je pense que ça, c'est une des raisons. C'est quelque chose que je pourrais, à quoi je pourrais souscrire. D'ailleurs, je crois l'avoir dit plusieurs fois. Et effectivement, on ne s'attache pas à ce à quoi je me suis attaché. On ne traverse pas un certain nombre de choses que j'ai traversées, y compris moi-même. La traversée de soi fait partie du travail de l'écrivain. Sans que ça, comme dirait Rimbaud, sa santé soit menacée, n'est-ce pas ? Donc ces menaces sont des menaces constantes, je veux dire la peur de sombrer dans la folie, dans la maladie plutôt, sont des choses que je ressens assez fréquemment et qui ont par certains côtés partie liée avec le mal, avec le démon. Donc il y a dans toutes les dimensions, dans tout geste d'écriture, quelque chose de l'ordre de l'exorcisme. Tous ces mots font peut-être sourire, démon, exorcisme, surnaturel, etc. En réalité, voilà, on peut les considérer autrement et penser que, hélas, ils sont tout à fait actuels. Et, en tout cas, même si on, si on reste à un plan métaphorique, l'écriture a quelque chose d'un exorcisme. Et comme tout exorcisme, c'est à la fois très codifié et tout à fait épuisant.
Alors, elle est bien liée à un pouvoir de transmutation, où elle va transformer ce qui était une matière maléfique et l'attirer vers la pureté. Parce qu'on parle très souvent du topos ou du fantasme de la pureté de la langue dans votre œuvre. Et est-ce que ça ne vient pas de là, ce qui vous est reproché de façon parfaitement littérale, ne doit-il pas en réalité être compris tout simplement par rapport à une vision littéraire? Je pensais à la polémique que j'ai évoquée tout au début sur vos derniers livres, qui sont peut-être lus comme des expressions littérales d'une pensée politique ou citoyenne ou morale, alors qu'en réalité, il conviendrait davantage de les interpréter par rapport à une quête littéraire qui assigne pour mission à la littérature de trouver une pureté. Parce que si on veut se livrer au jeu d'identification, on s'aperçoit que vos personnages dénoncent ce dont on vous accuse. Je citerai par exemple dans L'Auvle pure, le protagoniste qui se sent en exil s'identifie, dit-il, aux nègres, aux arabes, aux chinois, à d'autres races encore, tous ceux qui ont abandonné leur village et leur terre pour aller ailleurs renier leur sang. Il est sauvé par un ancien élève qui est maghrébin. Alors, est-ce que c'est une palinodie ou est-ce que, au contraire, il n'y a qu'un seul discours chez Millet, qui est celui de la langue comme vecteur de pureté, et il faut lire vos essais dans cette perspective ?
La question de la pureté est obsédante. Là aussi, c'est quelque chose de difficilement, très difficile d'en parler aujourd'hui. Vous voyez, tous ces vocables sont immédiatement pris dans des doxas ou des contre-doxas. Enfin, je me souviens d'avoir publié un volume du Sentiment de la langue où j'avais effectivement parlé de la pureté, non pas de la langue en tant que telle, mais plutôt de la pureté de la syntaxe, qui est une formule qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup chez les critiques littéraires du 19e, du 18e et même du début du 20e. Mais immédiatement, on m'a repris en me disant « Oui, c'est en pleine guerre de Yougoslavie, pureté de la langue, purification ethnique, on voit bien qui vous êtes, etc. » Bon. En réalité, je crois qu'il faut aller chercher des réponses chez, par exemple, quelqu'un comme Kafka. Vous savez, j'ai mis en épigraphe dans le Sentiment de la langue une phrase de Kafka qui dit que lorsqu'on lèse la syntaxe, on lèse l'âme. Kafka, c'est pas n'importe qui, vous êtes d'accord ? Donc, ça m'a intéressé beaucoup. Ça m'a plus qu'intéressé, c'est quelque chose qui m'a, voilà, qui est devenu presque une loi pour moi. Je pense que cette loi, la loi syntaxique, beaucoup plus que la loi sémantique, si je puis m'exprimer ainsi, aura guidé toute ma vie. Et je suis au fond, peut-être en quête de la pureté, non pas de la loi, parce que la loi n'est ni pure ni impure, mais la pureté de mon rapport à la loi. Écrire, au fond, ça serait pour moi déployer l'effort par lequel j'atteindrai à la pureté de ce rapport à la loi. Au fond, ça serait prouver mon innocence. Je prouverais mon innocence en écrivant, par ma syntaxe, beaucoup plus que parce que le monde que je déploie, etc.
Alors, puisqu'on parle d'innocence, on va enchaîner avec la guerre. Votre premier livre, en 1983, s'intitulait « L'invention du corps de Saint-Marc ». Il raconte l'histoire d'un jeune Français qui se rend au Liban au moment de la guerre civile. Il va y tuer Agar et Farouche tout ensemble, avant d'y mourir entre un frère et une sœur. En 2009, la confession négative éclaire ce qu'a fait un personnage qu'on comprend très vite, être Pascal, le narrateur de « Ma vie parmi les ombres », entre son départ de Sion et le début de sa carrière d'écrivain. Or, il se trouve qu'entraîné un peu par hasard par un ami libanais, comme Marc dans l'invention, il rejoint les phalangistes au Liban, au début de la guerre, et va s'y conduire à peu près de la même façon. Sinon que nanti dès le début d'une forte vocation littéraire, à la différence de Marc, il va s'adonner à l'acte sexuel, avec volupté, pour une jeune femme qui s'appelle Roula, qui est très séduisante, qui est une espèce de quintessence du fantasme féminin dans l'œuvre de Richard Millet. Et il va aussi y tuer avec une trépidation intérieure violente, survivre, à la différence de Marc, et devra à cette expérience son entrée en écriture. La parenté entre votre personnage et vous-même, qu'on a pu établir par l'intermédiaire souvent du Pascal de « Ma vie parmi les ombres », la manière dont vous avez assumé la publication de ce texte comme un récit, en refusant d'utiliser le terme de roman sur la première de couverture, la manière dont vous avez pu expliquer que, contrairement à ce que vous aviez dit dans tous vos livres, vous n'étiez pas retourné pour la première fois au Liban en 1994 et que vous aviez dit que tel était le cas pour éviter des représailles avec des acteurs vivants d'une guerre à laquelle vous aviez participé, l'ont fait lire comme la consignation plus ou moins romanesque d'un engagement personnel. Et il vous a été très violemment imputé à charge. Or, le commentateur peut se poser des questions quand on lit « Fenêtre au crépuscule » à la date où Pascal Bugeaud se trouve au Liban. Vous êtes jeune marié, expliquez-vous, et jeune professeur en banlieue. Alors, j'étais presque tentée d'obtenir vos états de service à l'éducation nationale pour tirer la question au clair. C'est un peu troublant quant aux dates. D'autre part, il y a un extraordinaire parallélisme entre l'invention du corps de Saint-Marc et la confession négative, qui soit confirme absolument le fait que tout ceci est vrai, soit au contraire nous montre qu'on est face à une œuvre d'une extraordinaire cohérence et que ce récit revient sur une fable déjà explorée dans l'invention du corps de Saint-Marc, qu'elle complète, qu'elle varie, qu'elle approfondit. J'ai d'ailleurs remarqué dans l'édition de poche que vous avez eu la gentillesse de me faire envoyer que l'appellation récit avait disparu. Elle n'est pas remplacée par roman, mais on ne trouve plus rien du tout, donc le flou est encore plus grand. Et je me demandais si manière d'assumer de façon quasi personnelle les événements accomplis, les actes accomplis par votre personnage, n'était pas finalement une parade, mais appelé à formuler quel discours si essentiel que vous y avez joué votre image d'écrivain. Mon soupçon est d'autant plus grand que tous vos textes disent l'horreur de la guerre et se situent avec empathie du côté des victimes. Le père d'Yvonne Pial ne peut pas oublier les cris de ceux de l'Argonne. Toutes les allusions à Verdun sont dramatisées, de même que celles à la Seconde Guerre mondiale, y compris pour les personnages de votre œuvre qui ont fait la guerre d'Algérie. Et l'une des premières thèses qui ont été écrites sur vous contient cette phrase emblématique. Pour Richard Millet, la guerre constitue la figure absolue de la barbarie. Le soldat Rebérol, dans cette passion singulière, refuse de participer au conflit que Marc aussi méprisait à l'origine. Donc on a là un dispositif tout à fait étonnant devant lequel je m'interroge. Et l'extraordinaire haine que vous saviez pertinemment que vous alliez susciter, outre qu'elle relève d'une perception toujours ambiguë de l'écriture chez vous, entre monstration vaniteuse et désespoir porté au renchérissement masochiste, n'était-elle pas aussi appelée par la conscience même tacite que vous boucliez une boucle de votre parcours d'écrivain, que l'écrivain accompli, établi que vous êtes désormais, rompant avec les adolescents malheureux de ses premiers textes, doit s'inventer une nouvelle histoire, puisque avec la confession négative, on revient sur le premier personnage. On se représente très bien l'angoisse que cela peut susciter chez un homme de 57 ans, mais aussi un extraordinaire défi. Et ce texte qui a été si mal interprété n'était-il pas en fait l'aube d'un renouveau ?
D'abord, il y a guerre et guerre. Je veux dire, on ne peut pas comparer la guerre du Liban, surtout en 1975, au début de la guerre civile, où la plupart du temps, c'était des accrochages urbains à l'arme automatique, avec l'Argonne, vous voyez, ou le chemin des Dames, ou Verdun. Donc, il y a une différence extraordinaire. Plus tard, il y a eu des bombardements colossaux au Liban, mais le personnage en était déjà parti. En 1975, je n'étais pas du tout marié, donc... Vous irez regarder les registres d'état civil. Et bon, peu importe tout ça. Ce qui m'intéresse, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais écrire maintenant, mais la situation de la guerre aujourd'hui est exactement la même que le reste, que, vous voyez, que le. Un certain nombre de choses que nous avons évoquées ici, et peut-être même que la littérature ou que la langue. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en entendre parler, on ne veut pas la voir. Les Américains sont devenus les maîtres de ces guerres qui n'en sont pas tout en en étant. Ce n'est pas des guerres propres, vous voyez, donc des guerres de Game Boys au fond. Et voilà, ils contribuent à cette éradication de la réalité, du réel qui est une des caractéristiques du monde contemporain. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir voulu provoquer qui que ce soit en écrivant la confession négative. J'avais des choses à dire sur un certain nombre de choses, je les ai dites, et il se trouve que, voilà, donc ce livre a été absolument boycotté, et, comme les suivants d'ailleurs, et c'est extraordinairement intéressant, parce que pourquoi boycotter un écrivain ? Vous pensez que c'est parce que j'ai dit que j'avais combattu aux côtés des phalangistes ? Je ne pense pas. C'est autre chose. Je pense que c'est la littérature elle-même qu'on veut boycotter. C'est-à-dire, ce qui est scandaleux aujourd'hui, ce n'est pas que vous disiez que vous avez tué des gens, des Palestiniens, ou qui que ce soit. Ce n'est pas ça qui est scandaleux. La guerre est la guerre. Ce qui est scandaleux, c'est que vous l'écriviez de la façon dont je l'ai écrit. C'est ça qui est scandaleux. Le style aujourd'hui est scandaleux. Vous voyez ? C'est ça. C'est-à-dire que vous, avec le style, vous vous éloignez du social. Or, le social aujourd'hui est ce qui triomphe. Le sociologique est ce qui triomphe dans la littérature. Voilà, c'est tout. C'est... Maintenant que le personnage tue ou qu'il ne tue pas, peu importe, c'est la guerre. En revanche, que la guerre ait pu, comme je disais au début, être une démarche, entrée dans ma démarche littéraire, c'est oui, ça, bien sûr, je l'ai dit au début, et la guerre du Liban... la guerre de 75 par rapport à la guerre de 67, la guerre de 67, c'était une guerre israélo-arabe. La guerre de 75 était une guerre palestino-israélienne au départ sur le sol libanais. Ensuite, ça a été une guerre civile libanaise. Mais bon. Mais il me semble que le personnage, le narrateur, ne s'intéresse absolument pas, ou très peu, aux composantes. Il est du côté chrétien, parce que c'est tout à fait normal, il est chrétien, donc pourquoi irait-il combattre en face ? Ce serait stupide et absurde. En revanche, ce qui l'intéresse, c'est la guerre en elle-même. Et il y a une jouissance, je vais encore me faire des ennemis, mais peu importe, ils sont déjà là, une jouissance dans les combats de rue à l'arme légère, qui est quelque chose d'irremplaçable. Celui qui n'a pas tenu Kalachnikov ne peut pas savoir ce que c'est. Je suis désolé de dire, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. C'est un peu comme dans l'escrime, c'est un peu comme presque comme un instrument de musique. C'est, voilà. Personne ne peut comprendre ce que je suis en train de dire, mais peut-être que plus tard, vous pourrez le comprendre. Le cliquetis des douilles de Kalachnikov qui tombent sur un carrelage à l'intérieur d'une maison par la fenêtre de laquelle on tire est quelque chose d'extraordinairement jouissif aussi. Voilà. De quoi me faire haïr un peu plus, mais je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité. Et je ne suis pas le seul à le dire. Vous savez qu'il y a eu, il y a beaucoup de gens au Liban qui regrettent la guerre, qui regrettent non pas les massacres, les choses comme ça, mais qui regrettent l'atmosphère de la guerre, qui regrettent, j'allais dire, la dimension littéraire de la guerre. C'est-à-dire cette espèce de jouissance qu'il y avait à combattre les alentours de la guerre. Vous voyez ces choses-là. Quelques livres ont commencé à être écrits en arabe sur la guerre du Liban, de la part d'anciens combattants, qui disent parfois ces choses-là maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire c'est très politiquement incorrect, mais il faut le dire parce que c'était la vérité. De la même façon que la plupart des combattants, au bout d'un certain temps, étaient complètement shootés au hashish, à l'alcool, aux amphétamines. Donc, vous voyez, c'était une dimension presque littéraire. Après tout, Sartre prenait bien des amphétamines. Donc, pourquoi Kalachnikov ne serait pas, etc. Vous voyez ? Alors, vous allez me dire, mais c'est épouvantable ce que vous dites et la dimension morale de la chose.
Etc. Non, moi, je suis littéraire. Ce qui m'intéresse, c'est la schizophrénie totale entre les passages où on a au contraire l'empathie pour les victimes et cette capacité, ce dédoublement au moment d'exprimer la jouissance des balles de Kalachnikov sur le carrelage de la cuisine.
Douille, oui.
Douille. Je suis une femme.
Ben, c'est comme ça. Les choses sont extraordinairement complexes. Et c'est ça qui m'intéresse dans la littérature. Et ce pourquoi j'écris, c'est aussi ça. C'est de montrer que le même geste peut avoir une dimension extraordinairement pure, légère et, pour d'autres, scandaleuse, abominable. Voilà, tirer avec une Kalachnikov, effectivement, bon. Ici, au centre Pompidou, ça vous paraît, en plein Paris, quelque chose d'extravagant, de scandaleux, tout ce que vous voulez. Dans la situation au Liban, ça l'est beaucoup moins. Il y a une culture des armes dans ce pays qui est millénaire. Donc déjà, ça, c'est tout à fait autre chose, vous voyez. Donc il faut s'inscrire dans cette histoire. Et puis, il y avait une dimension politique. Bon, je ne vais pas en parler. Bon. Voilà, en tout cas, que le narrateur ait pu, je dis bien le narrateur pour évacuer toute ambiguïté, que le narrateur ait pu trouver dans la guerre la confirmation de certaines choses quant à l'écriture et à la littérature, oui, ça je l'assume absolument.
Ce serait une espèce de métaphore.
Pour parler de l'écriture, on est obligé de parler par métaphore, sinon on ne peut pas en parler. Pour parler d'une démarche aussi. Et que la guerre soit une métaphore de la littérature, oui.
Qui est peut-être alliée avec votre sentiment permanent de l'obsession, de l'ennemi qui revient. C'est peut-être aussi encore une façon de parler littérature que cette espèce de léger délire paranoïaque que certains vous imputent.
Écoutez, si vous lisez la presse qui m'est consacrée ou les blogs, je ne pense pas que ce soit de la paranoïa. Ça, c'est plutôt des choses réelles. Donc,
Mais n'est-on pas là tout simplement dans un discours sur la littérature, dont les termes peuvent étonner, surprendre ?
Non, je pense qu'on n'est pas uniquement dans la littérature. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le politiquement correct, qui est devenu aujourd'hui, on en rit beaucoup, mais qui est devenu un appareil idéologique d'État. Et voilà, c'est tout. Donc je me confronte, je me heurte à ce politiquement correct quotidiennement, et c'est tout. J'assume, donc ça veut dire que je suis dans une situation de conflit, de combat, et c'est tout. Donc... Simplement, je ne peux pas avoir une Kalachnikov en France. Enfin, je ne peux pas m'en servir, disons, ouvertement. Donc, je me sers des mots, c'est tout. Je veux dire, n'oubliez pas que le monde contemporain n'a qu'un but, c'est d'évacuer la littérature. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Debord et tant d'autres l'ont dit. Vous le voyez dans l'enseignement, vous le verrez bientôt, vous le voyez peut-être déjà à la Sorbonne. Cette évacuation de la littérature, de la dimension littéraire de la France, est une constante. On sait très bien, d'autres l'ont dit. Michéa, notamment, a parfaitement analysé ça. Nous sommes dans le règne du droit et du marché. Voilà, la littérature n'a plus sa place. Donc, nous sommes les derniers. Donc, nous résistons. Nous sommes quelques-uns à résister. Je n'ai jamais dit que j'étais, moi, Richard Millet, le seul, le dernier écrivain. Ce sont les imbéciles qui croient ça. Nous sommes quelques-uns. Le dernier écrivain, c'est quelques-uns. Vous voyez ? À résister encore, non pas pour triompher, mais pour l'honneur, uniquement pour l'honneur.
Alors justement, est-ce uniquement pour l'honneur ? Il me semble qu'il y a une autre dimension qui affleure dans vos textes, qui est celle du sacré. Torturé, torturant, bourreau parfois, vos personnages sont néanmoins hantés par la question de l'innocence et par la soif de la rédemption. Chantal Lapeyre a une très belle expression pour vous qualifier à la fin de sa préface dans « Fenêtre au crépuscule ». Elle parle d'un saint Alexis musicien. Et cette œuvre qui est foncièrement laïque, mais dans le détail extraordinairement travaillé par des motifs scripturaires qu'on retrouve dans les titres d'ailleurs des nouvelles, par exemple de Cœur Blanc, l'offrande méridienne, une jeune mère qui fait penser à la Vierge, les grâces, la visitation. Dans le sentiment de la langue, on a des chapitres qui s'appellent dévotion au pluriel, confession, etc. L'avoue avec limpidité. Donc cette œuvre n'est-elle pas en fait plus profondément habitée, de même qu'elle est hantée par la question du mal, par l'angoisse de la sainteté, l'avers de cette chute si souvent décrite dans les faits? Quelle terreur le ciel trop bleu, comme le manteau de la Vierge, symbolise-t-il dans vos romans? Vous accordez beaucoup d'importance à une dernière nouvelle du Cœur Blanc qui s'intitule « Le petit Roger », dont le nom composé des substantifs germaniques « Rod la gloire » et « Gary la lance », on le sait, signifie « le glorieux guerrier ». Ce personnage antithétique est une espèce de martyr, d'innocent, humilié et de saint à la fin. On sait aussi que vous aimez l'opéra de Chimanowski, « Le roi Roger », on voit apparaître une figure divine. Toute votre œuvre, loin des clichés mémoriels qu'elle a souvent suscités, ne tend-elle pas en réalité vers une épiphanie salvatrice, un renouvellement du vieil homme? N'est-ce pas ce que vous cherchez, un peu désespérément, par tous les moyens, à mettre en évidence?
Je crois que je cherche surtout à réconcilier le vieil homme que je deviens avec l'enfant que j'ai été, c'est tout. C'est
une non, mais je parlais du vieil homme au sens biblique.
Mais moi, je vous parle du vieil homme que je suis en train de devenir. Ça m'intéresse beaucoup plus que le vieil homme biblique. Je veux dire par là que ce sentiment de déchéance progressive, vous voyez, de difficultés de plus en plus grandes à vivre, fait que je cherche à me réconcilier, à tendre la main de plus en plus loin à l'enfant que j'ai été et que je ne suis plus depuis longtemps. Vous voyez, d'où le récit généalogique auquel je songe à écrire, enfin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, la question de l'innocence, elle est liée bien sûr à ça, même si je ne veux pas idéaliser l'enfance. La pureté, la sainteté, effectivement, c'est, voilà, donc, élevé dans la religion catholique, je suis hanté par ces figures, et c'est quelque chose qui... Puis, peut-être plus que les saints, la question des anges. Encore une fois, je pourrais convoquer Rilke, n'est-ce pas ? Donc, je crois beaucoup à ça, aux anges, non pas qu'ils apparaissent avec des ailes, mais une espèce de présence comme ça frémissante. Et vous savez, dès lors qu'on croit au surnaturel, mais pas de façon stupide ni naïve, on est dans un autre ordre de réalité qui s'interpénètre avec la réalité plus quotidienne. Et le rapport à toute chose et aux gens change beaucoup. Donc effectivement, j'écris peut-être pour me concilier les anges, pour... Je ne sais pas, voir sourire les anges. N'allez pas me dire que c'est une dérobade. Vous savez très bien que je cherche à acclimater quelque chose de l'ordre, ce qui peut me dépasser et qui peut me consoler, qui peut me guider vers ce linceul de mots final dont je parlais tout à l'heure.
Non, j'irais plutôt dans votre sens. Je me demandais d'ailleurs si l'étonnante absence de l'amour profane dans vos textes n'était pas liée à cette hantise plutôt de l'amour sacré. On a d'un côté le corps et de l'autre l'amour de Dieu, mais l'amour des créatures qui est précisément nié pendant très longtemps, est-ce également la pierre d'achoppement dans les textes? C'était pas en réalité une œuvre dont on a peu exploré jusqu'à présent la dimension théologique ou mystique et qui appellerait ceci? C'est peut-être pas un hasard si dans une espèce de préscience fulgurante, le premier personnage se voit accorder une forme de sainteté au moment de mourir. Si son double, à la fin d'une quête similaire, est présenté comme un personnage d'écrivain, si l'écrivain ne serait pas non plus une manière d'entrer dans le sentiment du sacré ou un guide vers un passeur vers le sacré?
Ça, c'est... Non, c'est... je ne peux pas répondre à cette question. Ça... En tout cas, je ne peux pas y répondre de façon personnelle, c'est trop... Mais qui a un rapport au sacré, une hantise du sacré, oui. Je pense que beaucoup de choses ont lieu à partir d'une simple hantise aujourd'hui, vous voyez, non pas d'un... C'est peut-être d'ailleurs ce qui caractérise le monde contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement véritable, mais plutôt des hantises ou des nostalgies, des choses comme ça. Mais il est 8h15.
Oui, alors je terminerai juste...
tripoter cet appareil, si. C'est pas l'heure.
Si. Je terminerai juste par une belle citation, si vous le permettez. Vous évoquez à la fin de L'art du bref, ce très beau petit texte, un personnage d'Antoine Coderre en disant « Il était un homme de la préhistoire entrant dans la grotte de Lascaux pour y peindre ce qu'il dérobait au dehors et apposer ses mains négatives. Pas d'art ni d'artisanat donc, devant cette écolière à son pupitre, ce ramoneur nain, ce fier cycliste, ses conscrits faisant les bravages, ses noces figées, ses processions immémoriales, ses enfants et ses parents, ses chasseurs, ses buveurs, ce vieil homme en costume, chapeau melon et longue barbe divisée en deux pointes et qui ressemble à un rabbin ou à un vieillard de l'Ancien Testament ayant passé le costume dominical. Pas de l'art, non, mais encore une fois, ce qu'il recherchait inlassablement sans pouvoir le nommer et qui est au-delà de la gloire et de l'amour que peut donner une femme et qui ne se trouve que dans l'opération consistant à dérober à la nuit un peu de la lumière éternelle, qui me semble peut-être une très belle formulation de votre tentative. Alors, si certains d'entre vous...
Vous auriez mieux fait de le lire d'abord, ça m'aurait épargné beaucoup de balbutiements.
Mais non, mais vous n'auriez dit que des choses convenues. Si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, je vois qu'il y en a aussi sur cette machine. Alors, peut-être la salle en premier.
Bonjour. Donc, moi, j'ai découvert votre œuvre assez récemment et je travaille actuellement sur un sujet de recherche en essayant de comparer votre œuvre avec celle de Thomas Bernhardt sur justement la présence de la musique dans son œuvre et dans la vôtre. Et parce que j'ai trouvé que dans votre œuvre, il y avait vraiment ce souci de montrer l'origine de la musique qui était aussi bien, donc comme ça a été dit un peu, un rapport ambigu entre haine et amour de la musique, mais aussi, comme vous en parlez très bien, de l'invasion musicale qui est actuelle encore, et puis aussi d'autres types de musique qui, vous en parlez je crois dans Musique secrète, des musiques qui ont un caractère visible, comme je crois vous parlez du rock, que vous opposez à des musiques plus vraies, qui vous semblent peut-être plus vraies, enfin en tout cas pour votre narrateur. Et je voulais savoir justement ce que vous pensez de l'œuvre de Bernhardt, quelle est son influence sur la vôtre, et quand est-ce que vous avez découvert cette œuvre ? Voilà.
Je l'ai découvert assez tôt, parce que je pense que pour ma génération, un livre comme Gel a été un choc véritable, et la suite aussi. Je veux dire, donc il y a un côté très fraternel, c'est à partir de ces auteurs avec qui on se sent dans un rapport de fraternité, au sens très particulier que ça peut recevoir. Ce qui m'intéresse chez Bernhardt aussi, c'est le côté obsessionnel de sa phrase, c'est une espèce de ressassement parfaitement maîtrisé, et aussi sa violence. C'était pas... Et en même temps, sa drôlerie, parce que c'est absolument... Par exemple, des arbres à abattre, espèce de type très méchant comme ça qui est dans un fauteuil à oreillettes là, qui arrête pas de critiquer tout ce qui se passe dans la soirée, c'est à hurler de rire, c'est prodigieux, vous voyez, ou maîtres d'autrefois, ou maîtres anciens, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, donc il y a une dimension extraordinairement drôle et féroce chez Bernhardt qui, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'un type comme ça aujourd'hui serait recevable par l'establishment international. Donc justement, il est mort beaucoup trop tôt, il est mort en 89, si je me souviens bien, et je pense qu'il serait décrété politiquement incorrect. Mais c'est une œuvre, si vous voulez, à laquelle je reviens régulièrement, vous voyez, et je tourne autour beaucoup en ce moment d'une relecture de son autobiographie, à propos de ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Vous voyez, je vais aller à l'origine, comme il dit. Mais c'est une œuvre, effectivement, de premier plan, et que je regrette de ne pas pouvoir lire en allemand, parce que je ne suis pas sûr que la traduction française, enfin certaines traductions, soient amplement satisfaisante. Quant au rock, je n'en parlerai pas, mais je suis beaucoup plus violent que ce que vous avez bien voulu dire.
D'autres questions ? Alors, je suis un peu gênée par tout.
Mademoiselle.
Bonjour, je suis étudiante en première année de lettres modernes appliquées à la Sorbonne. Et je dois dire que vos propos quant à la littérature mourante m'effraient. Et je voulais vous demander quels sont pour vous les ennemis de la littérature aujourd'hui, et si vous ne pensez pas qu'il a déjà été beaucoup dit plusieurs fois que par exemple la télévision tuerait la littérature ou ce genre de choses.
Je ne pense pas que ce soit la télévision qui tue la littérature. Je pense que ce sont les écrivains ou les prétendus écrivains qui la tuent. Enfin, plutôt les romanciers qui sont en train de la tuer. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, si vous regardez un peu ce que je dis dans ce livre, L'enfer du roman, la littérature, c'est le roman. Non pas le roman de Thomas Bernhard, mais le roman international, n'est-ce pas, interchangeable, enfin, la chose banale qu'on trouve partout, c'est même pas Marc Lévy. C'est Marc Lévy, c'est la sous-littérature. Mais je veux pas citer de nom. Je me suis juré de ne citer aucun nom français. Mais il y a beaucoup de noms étrangers qui peuvent nous venir à l'esprit, n'est-ce pas? Donc et qui sont, par exemple, je pense que Rushdie est un très mauvais écrivain. Vous voyez, ça fait partie de cette chose. Si Rushdie n'avait pas été condamné à mort par les imams, les ayatollahs. On ne parlerait quasiment pas de lui. Enfin, c'est une imposture absolue. Sa littérature est épouvantablement ennuyeuse. Enfin, c'est peut-être son premier livre, Les enfants de minuit. Enfin, vous voyez, c'est une imposture absolue. Et tant d'autres écrivains de ce genre, qui sont portés au nu par l'establishment, sont en train de tuer le roman parce qu'ils ne font que copier des modèles qui sont déjà en eux-mêmes éculés. Donc, ce qui ne laisse aucune place pour les autres genres littéraires, si tant est qu'ils existent encore, ou même pour la littérature, les choses inclassables, des livres brefs, des livres, vous voyez, des inclassables en tant que tels. Il y a donc un formatage qui fait que, effectivement, on est en droit de s'interroger sur, dans les 20 ou 30 années à venir, l'existence même de la littérature, enfin, ce que nous avons, nous, appelé la littérature. Maintenant, il restera toujours un label qui s'appellera littérature. Mais il y a peut-être encore plus grave que ça, c'est l'ignorance de la plupart des étudiants, non seulement en France, mais un peu partout, et l'indifférence à la littérature en tant que telle, c'est tout. Je crois que la littérature n'intéresse plus grand monde. Il faut bien la France faire encore illusion. Mais si vous allez ailleurs, c'est quasiment disparu. Puis, vous savez, je suis quelqu'un de, paraît-il, violent, mais quelqu'un qui n'était pas tellement violent, en tout cas à la fin de sa vie, Julien Gracq, dit, je cite en épigraphe, « La littérature de tous les arts a paru la dernière et un jour, sans doute, la première à s'éclipser. » Donc voilà, donc Julien Gracq n'était quand même pas un grand pessimiste, me semble-t-il, même s'il a renoncé lui-même au roman. Enfin, vous voyez, comme si, par hasard non plus, que des types comme Gracq et tant d'autres aient renoncé au cours de leur, disons, œuvre, aient abandonné le roman. La mort de la littérature, si c'est, la littérature c'est le roman, oui, appelons-la de nos voeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'écrivains. Ça veut dire que les écrivains qui vont continuer à écrire ou qui vont naître devront inventer autre chose. Et ça, oui, c'est une source d'espoir. Donc n'ayez pas peur. Ou intégrez votre peur et transfigurez-la.
Internet. Une question sur l'écran, non ?
En fait, il y a des questions, mais elles sont assez difficiles à lire parce qu'il y a des caractères qui arrivent de manière très étrange. Une des questions consiste à nous demander si la BPI pense-t-elle vraiment qu'il est possible de poser en 140 caractères une question intéressante à Richard Millet. Il n'y a pas grand-chose à répondre. Et rien sur Chrome et FF sous Mac OS 10, rien sur IE sous Win XP. Je suis maudit, je vais me saouler.
Alors, bon, écoutez,
il n'y a peut-être pas grand-chose à commenter.
Voilà, on va redonner la parole à la salle. Alors.
Oui, je crois que ça vaut mieux.
Si Julien Gracq était dans la confession, aussi bien dans ses derniers ouvrages, dans Les Lettrines, Liberté Grande, je voudrais vous poser, est-ce que pour vous, écrire est un art une psychanalyse ?
Si écrire est une psychanalyse ? Pour moi ? Non, pas du tout.
C'est un art, pas, d'abord.
C'est surtout un art, je l'espère en tout cas, mais bon, qu'il puisse y avoir une connaissance souterraine de soi, comme ça peut être, comme le peut l'être la psychanalyse. Il y a une dimension littéraire des psychanalyses aussi, vous voyez, mais non pas une pratique psychanalytique, non. Je ne cherche pas à guérir, je veux au contraire voyez.
Oui, vous dites que la littérature est en train de mourir ou est à peu près morte, que vous ne citerez pas tous les écrivains français en tout cas qui l'enterrent, très bien, mais vous pensez, je pense quand même qu'il y a quelques écrivains qui continuent à écrire, à faire de la littérature et à faire vivre donc le roman d'une manière particulière ou la littérature d'une manière plus générale, et que ce peut-être petit nombre remplacerait un grand nombre qu'il y a peut-être eu dans une certaine époque et qu'il n'y a plus, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas il y a actuellement encore des écrivains de tous les âges et sans doute peut-être jeunes encore qui naissent et qui écrivent des livres que vous estimez être de la littérature.
Bien sûr, je n'ai jamais dit que la littérature était morte là. Tout ce que je dis dans ce genre de livre, de réflexion, c'est quelque chose qui doit être projeté dans une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, n'est-ce pas ? Ça relève plus de l'angoisse que j'éprouve face à des situations. Il y a des écrivains, bien sûr, il y en a même un dans cette salle. Jean-Benoît Puech, par exemple, avec qui je m'entretiens depuis 33 ans. Vous voyez, donc... qui mène une œuvre, pour le coup, inclassable, oui, et qui pourtant est de la littérature. Voilà, donc il y en a beaucoup d'autres. Mais je disais, je ne veux pas citer de noms négativement. C'est tout. C'est trop facile. Il y en a trop. Madame.
Ce qui m'a le plus frappé dans tout ce que vous avez dit, c'est la référence au Kalachnikov et la jouissance de la douille qui tombe sur les carreaux. Est-ce que ce n'est pas le révélateur d'une souffrance, d'une blessure énorme qui vous ronge? Parce que le Kalachnikov, comme ça, dit comme ça, évidemment, c'est quelque chose d'atroce à entendre pour des oreilles qui vivent en paix, on va dire, entre guillemets. Dans la réalité, vous avez en face de vous quelqu'un, il y a une haine, évidemment, il y a toute une histoire, il y a un contexte, et c'est un geste normal. D'ailleurs, on peut, je pense, jouer avec des Kalachnikovs sans armes, avec des paroles, avec des non-regards, enfin, avec mille manières de se comporter avec quelqu'un qu'on peut tuer moralement, on est bien d'accord. Pour moi, ce geste-là, enfin, ce que vous racontez avec ce côté jouissif, pour moi, c'est ça. C'est une manifestation d'une souffrance énorme qui explose de cette manière-là. Que vous l'ayez fait ou pas, je n'en sais rien. Et en même temps, je le rapporte aussi à ce que vous avez dit un peu plus tôt sur les diarrhées, défécation et autres. Ça peut être aussi la même chose. On évacue quelque chose parce que c'est un besoin, une nécessité. Ce n'est pas très joli, ce n'est pas politiquement correct, mais j'y vois aussi une espèce de rapport aussi entre les Kalachnikovs et cette espèce de fuite malgré soi.
Que vous dire ?
La défécation est encore politiquement correcte, je crois.
Pas du tout, pas du tout.
On se cache quand même.
Oui. Peut-être, mais je voulais surtout insister sur la matérialité de la Kalachnikov. Je veux dire par là, vous voyez, sans hors symbole. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est une dimension symbolique, si vous voulez. Ou métaphorique. Je veux dire par là que le Kalachnikov, c'est une arme, c'est un objet, c'est pas très lourd, et c'est tout ce que je voulais dire, vous voyez.
Mais vous ne prenez pas, là, si vous aviez une arme, là, vous ne la prendriez pas dans la jouissance de, je ne sais pas, peut-être moi, je ne sais pas. Donc il y a tout un contexte, une histoire, un environnement.
Mais il y a des gens qui ont des Kalachnikovs chez eux au Liban et qui les sortent régulièrement pour les essayer ou les entretenir, les soulever, les soupeser, etc.
Oui, il faudrait connaître leur histoire aussi.
Oui, bien sûr. La guerre manque beaucoup Il y a des gens qui, lorsque Israël a occupé le sud Liban, pendant près de 20 ans, d'anciens combattants que j'ai connus, qui allaient écouter les bruits du canon, ils avaient besoin de ça à la frontière, vous voyez, quand le Hezbollah attaquait, ça leur manquait. Donc ils allaient en villégiature pour... Ça vous paraît extravagant, mais pourtant c'est la vérité.
Non, mais c'est une culture, on va dire.
C'est la vérité.
Bonsoir. Double question. Pourquoi vous en prendre autant au roman américain dans l'affaire du roman ? J'avoue que j'ai pas bien compris cette polarisation, cette concentration sur le roman américain. Et deuxième question, j'en profite tout de suite, puisque vous êtes bercé par la musique et vous connaissez très bien certains compositeurs comme Dalbavi ou Edith Kanachisi, quel parallèle établissez-vous entre ce que vous appelez la mort de la littérature, désolé de revenir là-dessus, et la mort d'une certaine forme de musique, puisque finalement il y a encore plus de gens, je pense, qui achètent un roman de Richard Millet que des gens qui achètent un disque même de Boulez ou de Dalbavi.
La question de la musique, je vais répondre par ça, je vais commencer par ça. La question de la musique savante, disons, parce qu'il faut l'appeler comme ça aujourd'hui pour qu'on comprenne bien, effectivement, préfigure au fond ce qui va arriver à la vraie littérature ou à la littérature savante. Peut-être qu'il faudrait qu'il aurait peut-être fallu que je dise non pas post-littérature, mais littérature savante. Je pense que la musique nous précède, les conditions socio-économiques de la musique nous précèdent, dans effectivement la raréfaction, etc. On commence à s'inquiéter beaucoup, par exemple, sur le fait de savoir si toutes les salles symphoniques, les orchestres pourront être aussi nombreux. Vous voyez, donc, quand on commence à s'inquiéter de ce genre de choses, ça veut dire que la réponse est très claire. Quant à ce moment où la musique s'est séparée de son public dit populaire, c'est effectivement une forme de drame, mais la littérature a suivi le même chemin, d'une certaine façon. Je veux dire, Mallarmé n'est populaire que par un ou deux vers, donc personne, au fond, ne sait qu'ils sont de Mallarmé, vous voyez. On ne peut pas prétendre faire lire Mallarmé à tout le monde. Donc, c'est comme ça, il faut accepter qu'il y a des choses qui soient rares. Maintenant, que des choses se raréfient, c'est beaucoup plus inquiétant. Mais ça... Tant qu'il est possible de créer un opéra de Dalbavi à Zurich, je ne désespérerai pas trop. Mais Régis Campo, par exemple, notre compositeur contemporain, me disait récemment que certains de ses étudiants, élèves compositeurs, étaient ignares en matière de littérature, chose qui n'avait pas le cours avant. Vous voyez, donc, ça apporte de l'eau, hélas, à mon moulin. Quant au roman américain, ce que j'appelle par roman américain, c'est au fond tout ce qui est appelé à devenir américain, cette espèce d'américanisation des choses. D'abord, le roman américain, à part 3-4 écrivains contemporains américains, disons bien, disons simplement, c'est aussi nul que le reste. Enfin, je veux dire, c'est de la copie, de la copie, de la copie. Enfin, bon. Simplement, la presse littéraire ou prétendue littéraire française, stipendiée par les éditeurs, cherche à nous faire croire que c'est les nouveaux Faulkner, etc. Donc, c'est de la daube la plupart du temps. Mais c'est vrai, pourquoi il y aurait, je veux dire, 37 000 livres anglo-saxons ont été traduits l'année dernière en France. 37 000 livres, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. 37 000 romans, etc. Recueils de nouvelles, c'est américain, nous sommes américains, c'est fini. Voilà. Et je gage même que dans 20 ou 30 ans, on écrira directement en anglais, comme les scientifiques déjà le font, et comme certains chanteurs de variété français le font directement en anglais. La fille de Modiano, chante en anglais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce sont des signes, on ne peut pas les négliger. Les historiens, par exemple, je le dis dans l'Enfer du roman, il y a une interview de Jean-François Sirinelli qui disait que l'historiographie française se trouve dans l'angle mort maintenant de la visibilité mondiale. Donc, ça veut dire que si vous n'écrivez pas directement en anglais, il ne restera plus que les écrivains. Or, comme ils écrivent de la merde, pour dire les choses très crûment, pourquoi n'écrirait-il pas cette merde directement en anglais? Ce sera beaucoup plus simple, les frais de traduction, etc. Mais je ne plaisante pas. J'ai entendu déjà ce genre de questionnement chez certains écrivains. Vous avez déjà au Québec un certain nombre d'écrivains nés dans la francophonie qui écrivent leurs romans directement en anglais. Ils sont dans un contexte anglophone, ça leur est assez facile. Le type qui a écrit cette espèce de merde là pour adolescents, histoire de pie, c'est un Québécois francophone. Il a écrit directement en anglais et Obama a trouvé ça magnifique. Donc tout va bien, vous voyez, on est dans un monde quasi parfait. Si Obama, etc. Bon, ce ne sont pas des boutades, ce sont des choses très très sérieuses. Il y a un fantasme aussi d'îlotte, de néocoloniser ou de protocoloniser chez les écrivains français ou européens vis-à-vis d'être américains. Ils voudraient tellement imiter, vous avez de plus en plus de romans français, allemands, etc., qui imitent déjà formellement, avec des tics langagiers dans la langue vernaculaire, mais qui imitent cette littérature américaine. Il ne reste plus qu'à franchir le pas, un petit effort, et devenir américain. Malheureusement, c'est ça. C'est un peu forcé, le trait est un peu forcé, mais je crains que d'ici 30 ans, ça soit à peu près ça. Et là, nous aurons un monde parfait. La globalisation sera accomplie. Malheureusement,
Bonsoir. Je voulais seulement éclaircir un peu l'histoire de la Kalachnikov à madame. Moi, je suis libanaise, j'ai vécu la guerre, plusieurs guerres en fait. Et la dernière, c'était en 2006. Et je ne peux pas vous dire cette histoire de jouissance dans cette arme, dans n'importe quelle arme. Il y a dans la guerre une jouissance que personne ne peut vivre, personne ne peut toucher, sauf celui qui vit la guerre, qui attend le bruit des canons et qui jouit. En fait, moi j'étais au Liban en 2006 et on attendait impatiemment quand est-ce qu'on va bombarder. Parfois on riait. Parfois, on s'éclatait de rire et parfois, on pleurait. Quand c'est très proche, on s'éclatait de les larmes coulaient et parfois, c'est amusant. Donc, il y a une certaine jouissance que je voudrais comparer au stylo. Cette arme, je voudrais bien la comparer au stylo. Je voudrais bien dire que quand on l'utilise, on jouit. On ne voit pas la victime, peut-être, on ne voit pas ce qu'on écrit parfois qui n'est pas bien, qui est politiquement incorrect, je ne sais pas. Mais avant le résultat, il y a une certaine jouissance. Peut-être c'est de ça que M. Millet a parlé.
Oui, mais ça, ce n'était pas du tout un problème. Je crois que vous n'avez pas compris mon point de vue, qui était celui de mettre en rapport des textes qui disaient des choses différentes.
Moi, je répondais, je voulais éclaircir ça à madame.
Ah, mais parce qu'en préambule...
Non, elle répondait à madame.
Oui, elle a parlé de l'arme, que comment ça faisait, ça donnait de la jouissance pour M. Millet, je ne sais pas si...
La jouissance, bon...
Oui, pour approfondir, bonsoir, cette question, je voudrais parler du décalage qu'il y a en fait entre cette pudeur que vous avez quand vous dites, vous êtes particulièrement humble quand vous parlez de votre statut. Vous avez du mal à vous définir écrivain. Qu'est-ce qu'un écrivain? Qu'est-ce qu'on y dépose? Qu'est-ce qu'on y met? Qui en est le rapport au sacré, etc. Donc vous avez d'un côté cette posture, vous interrogez l'imposture de l'écriture, et par ailleurs, il y a une jouissance dans la phrase, le déploiement de la syntaxe, et pour revenir aux armes justement dont on parle en ce moment, cette jouissance de l'écriture, mais du style finalement. Et alors, c'est très confus et caligineux tout ce que je vous évoque là, mais c'est comment vous situez-vous par rapport à ce décalage entre la question du statut de l'écrivain, de votre métier, et s'agit-il là, qu'est-ce que écrire est-il un métier, et interroger ça, c'est cette position-là, et aussi par ailleurs ce plaisir peut-être égocentrique ou enfin comment dire narcissique qu'il peut y avoir dans le déploiement de la syntaxe et cette forme de jouissance du style derrière le style, du grand style que vous avez.
D'abord, non, ce n'est pas un métier, même s'il faut un certain métier pour écrire, mais ce n'est pas un métier. Disons que je ne suis pas un écrivain professionnel, même s'il m'arrive d'écrire des choses, des commandes, de répondre à des commandes. Bon, la question de la séparation entre le sentiment d'imposture que je peux avoir vis-à-vis de la figure, du rang d'écrivain, du statut d'écrivain, et la jouissance que je peux trouver à écrire, à déployer la syntaxe, eh bien oui, c'est là, tout se joue entre ces deux choses. Vous voyez, ça se joue là, c'est une sorte de va-et-vient. Tantôt, on est plus attiré par ce pôle négatif, tantôt, c'est-à-dire l'incertitude, la haine de soi, etc. Tantôt, c'est par, effectivement, la jouissance qui donne le sentiment de maîtriser les choses. Vous voyez ? Mais en fait, à ceci près qu'on sait très bien qu'on ne maîtrise pas une langue, on ne maîtrise jamais une langue. On est toujours dans un état d'infériorité par rapport à une maîtrise, une posture idéale, si vous voulez, de maîtrise de la langue. Mais c'est justement, sans tomber dans des choses que pourrait articuler Deleuze à ce propos, mais on pourrait dire qu'au fond, écrire, c'est un effort vers une impossible maîtrise. Et le style serait le résultat de, jouissif ou pas, de cet effort. Et c'est un effort qui se pose, quelque chose, un travail sans relâche, sans relâchement, sans relâche, vous voyez, incessant, etc., quotidien, et qui vous écarte de la vie. Alors c'est peut-être la troisième, où ça serait le résultat de cette fausse dialectique entre imposture et jouissance, que de vous placer devant une espèce d'interrogation perpétuelle. Est-ce que c'est ça la vraie vie, comme dirait l'autre, ou est-ce que la vraie vie est ailleurs? Est-ce que je serais passé toute ma vie à côté de la vraie vie? Ou est-ce que ça aurait été ça, l'écriture, ce qui s'est passé en cours d'écriture, la vraie vie? Je n'ai aucune réponse pour le moment. Et probablement, n'en aurait jamais.
Je crois qu'on va terminer la séance en vous remerciant beaucoup, cher Richard Millet, de cette rencontre, cet entretien.
Merci. Merci, Pierre. Merci, Pierre.